C'est quoi en fait? Qu'est-ce que j'ai entre les mains? Qu'est-ce qu'il y a? Et donc ça diffracte. Et Vie potentielle est un livre qui diffracte. Mais il vient dans le temps d'après la diffraction, c'est-à-dire qu'il porte l'histoire de la diffraction. Donc en bref, pour aller vite, c'est quoi? C'est une forme, hein, si vous entrez dedans, c'est un livre où il y a plein d'histoires, il y a plein de narrations, avec des sujets un peu fous, c'est-à-dire des personnages un peu fous, qui ont perdu en fait leur centre, enfin leur lieu. Et ça, c'est des petites histoires. Et c'est plein de fragments. Et c'est pour ça que je disais que c'est après la diffraction, c'est qu'il y a un narrateur dans ce livre qui vous accompagne d'une certaine façon dans la lecture de ces micro-histoires, qui cherche à relier, à faire le mouvement inverse. C'est-à-dire, ok, ça a diffracté, mais comment est-ce que j'arrive en fait, hein, d'une certaine façon, à ne pas devenir fou? Et comment est-ce que je relis? Il s'appelle Abraham. Voilà, mais j'y reviendrai. Parce que j'ai mis d'autres images. Parce que Vie potentielle, il est aussi un peu dans cette, d'une certaine façon, dans cette action-là. La peinture, elle est de Renoir. Bon, c'est une peinture, il y en a plein, des liseuses, vous avez dû en voir. C'est souvent d'ailleurs des peintures de femmes qui lisent. Mais je vous dis en quoi c'est lié à la diffraction, parce que pour moi, d'une certaine façon, c'est une des causes de la diffraction du sujet. Alors, ça marche comme ça. Qu'est-ce que fait cette femme? Elle lit. Où est-elle? Dans la pièce où elle est peinte ou dans son livre? On parle du transport de la lecture. Elle est précisément transportée. Donc il y a une sorte d'épanchement du sujet qui part, qui décroche par rapport au lieu habité. Et je vous ai montré ces images parce qu'elles ne sont pas seulement anachroniques. Bon, ça c'est une autre, c'est un peintre italien qui a vécu en Grande-Bretagne, qui est devenu presque un peintre anglais. Mais en fait, je vous ai mis aussi cette image. Alors je vais y revenir parce que vous, ça vous semble un très grand peut-être, parce que la facture de l'image est très différente, donc on a l'impression qu'on a changé de temps. Mais en fait, on n'a pas tellement changé de temps, en fait. C'est-à-dire que ça vous dit un peu le rapport que j'ai à la fiction. C'est quoi une fiction? Comment ça nous déporte? Et donc moi, par l'écriture, je vais parfois avoir la tendance à faire l'inverse de la fiction. Alors je vous dirai un peu pourquoi, mais la fiction déporte. Donc vous voyez, on part de là, on va dire, d'un sujet qui est complètement diffracté, et on se demande par quoi il est diffracté. J'ai parlé de la physique quantique, donc d'un certain état du savoir. Je vous ai parlé de la psychanalyse, qui nous dit, bah, grosso modo, lorsque vous avez un désir, en fait, vous ne savez pas ce qui désire en vous. Lorsque vous avez un besoin, vous ne savez pas d'où ça vient. Le besoin de nourriture peut être lié à la peur. Le besoin de respirer est extrêmement lié au stress, à l'état nerveux. On ventile quand on fuit quelque chose, énormément de choses sont donc, disons, nous possèdent. Commencez par le corps. Donc la psychanalyse nous disait ça, que le cerveau maîtrise très peu, que la perspective est rompue. Et bon, une des raisons, dans ce qui est notre lieu là, on est entouré par des livres, c'est la fiction. La fiction, c'est Sapiens, quoi. C'est nous, quoi. L'espèce humaine, elle sait faire ça. Elle crée des fictions. Et après, elle s'y plonge. Et après, elle y croit. Et là, c'est vraiment encore, on est presque dans le temps, on est quelques années... on est même contemporain de Bovary. Donc vous avez lu Madame Bovary, quand même. Parce que même si vous ne l'avez pas lu, vous avez lu peut-être Madame Bovary, pas du tout. Peut-être à l'école. Hein? Il y a longtemps. Mais vous pourrez peut-être vous souvenir, ou même si vous ne l'avez pas lu, peu importe, on s'en fout, qu'elle meurt intoxiquée. Vous vous souvenez peut-être? Et... après avoir lu beaucoup de livres à l'eau de rose. Vous vous souvenez de ça aussi? Et il y en a un autre qui meurt aussi d'une certaine façon intoxiqué par, j'allais dire, la fiction, c'est Don Quichotte. À tel point que René Girard, d'ailleurs, qui n'est pas le meilleur critique littéraire qu'on a connu, mais qui n'a pas écrit que des choses idiotes sur le Quichotte et sur Madame Bovary, disait que... les mettait en relation. en disant qu'en fait, on a un même schéma. Mais en bref, ce qu'on a, c'est que pour moi, dans les termes que j'emploie moi, on a des gens, des personnages, qui sont déportés d'eux-mêmes, qui sont transportés, qui sont, disons, où leur centre explose, c'est l'inverse, si vous voulez, de la méditation. C'est, je lis une fiction et je suis transporté. Et ça va jusque-là, pour moi. Mais ça va jusqu'à ma pratique, lorsque je regarde des séries, et que je ne peux pas m'arrêter, parce que là, je veux savoir ce qui vient après. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent Breaking Bad, mais peut-être pas, parce qu'il y a beaucoup de choses. On est déjà d'un certain âge, mais si, quand même. Parce que Breaking Bad est aussi une histoire de l'intoxication. C'est une histoire de drogue. Et donc, en fait, dans le motif de Breaking Bad, il y a quelque chose de neuronal, en fait, qui est un lien neuronal de besoin entre le cerveau de Sapiens, qui est trop, qui a en trop le cerveau de Sapiens, et la consommation fictionnelle. Il y a quelque chose qui a besoin, qui cherche de l'adrénaline, et tout ça est biochimique, tout ça est chimique. C'est pour ça que c'est ce lien avec les savoirs qui m'intéressent aussi. Donc voilà ce qu'on fait, on se déporte. Alors vie potentielle, pour y revenir, c'est des histoires de gens qui vivent un peu comme ça. Il y a plein de micro-fictions, mais c'est pas forcément avec des... je sais plus comment on appelle ça d'ailleurs, Pierre. Des Google Glass? Non, les Google Glass c'est autre chose, c'est des... Et non, justement pas. Il y a comme ça cette sorte de vie encasquée, ouais. Les personnages des vies potentielles, ce sont des personnages qui vivent dans des vies en abîme, qui se nourrissent de fiction. Donc, pour vous donner des exemples, c'est une femme d'un certain âge qui a perdu ses enfants, mais qui tous les soirs, pour le dîner, met la table pour elle et ses enfants, et dîne avec eux. Donc, elle les fait vivre spectralement. C'est aussi le portrait d'un enfant qui est un peu délaissé par ses parents et vivant dans un appartement déserté plus exactement, le peuple de petits soldats d'une armée. C'est une jeune femme qui rentre chez elle en pensant que son amant l'attend et qu'il va se cacher derrière une porte et qu'il va la surprendre. Et qu'ensuite ils vont rire, et peut-être ils feront l'amour, et qui vit dans cette fiction, et qui parfois, en sortant de chez elle, descend et se retrouve le long du métro et voit la fenêtre de chez elle en l'ayant laissée allumée pour se voir vivant, d'une certaine façon. C'est tous ces phénomènes de décrochage. Donc c'est très littéraire, c'est-à-dire que ça raconte des histoires, mais c'est très précis, comme de la mathématique. Ça va chercher comme un entomologiste ou quelqu'un qui ferait la collection d'un certain nombre d'espèces va regarder toutes les espèces sapiens qui vivent dans ces formes de déportation, dans ces formes de vie potentielle. J'ai une dernière image sur ce livre parce que c'est le Caravage, là. Et vous reconnaissez peut-être ce moment si vous êtes lecteur de la Bible. Vous ne disiez peut-être pas Madame Bovary, mais vous avez peut-être étudié la Bible. Alors moi, c'est toujours très important la Bible chez moi, parce que justement, ça fait partie des fictions qui sont primordiales. Lorsqu'un enfant grandit dans le Coran, il vit dans ce Coran. Je vous renvoie à la liseuse. Il est projeté dans ces histoires que lui raconte le Coran. Lorsqu'on grandit dans le Pentateuque ou dans la Torah, on est projeté dans ces histoires et... on s'en souvient longtemps, à tel point que quand on a des enfants, on pense au sacrifice d'Isaac, on pense, etc., on pense à la reine Esther, on pense à toutes ces choses. On ne cesse de penser, on ne cesse de contaminer le présent par les histoires qui nous ont été racontées. Donc on retrouve cette figure d'intoxication, de consommation fictionnelle qui vient s'épancher dans le présent. Donc ça, pourquoi c'est en lien avec ce livre ? Alors, d'abord, on regarde l'image. Bon, je ne vais pas faire une analyse de cette peinture, ni de la lumière de Caravage, ni du fait que je pense que beaucoup vraiment du grand retour de Caravage est quand même lié aux techniques de restauration, juste en passant, puisqu'en fait on arrive à en faire un truc qui semble être éclairé par les meilleurs chefs opérateurs d'Hollywood juste avec leur restauration. Bon là, celle-là n'est pas la plus évidente pour ces histoires de restauration. Mais tout d'un coup, enfin, on retrouve cette lumière extrêmement orientée, oblique et tout. La ligature d'Isaac, en passant d'ailleurs dans un... puisque je pratique la méditation et en méditant, il m'est venu à l'esprit une interprétation de cet événement-là. Vous connaissez l'histoire, donc il doit... Dieu lui a demandé que... Dieu lui a demandé de...
Il existe d'ailleurs dans
un religieux. Oui, absolument. Enfin, dans les trois, même.
Ouais.
Voire au-delà, parce que ça doit exister dans des mythes et autres. Mais je m'interrogeais, en fait, sur cet ordre donné, en fait. Et comme moi, je suis père, et vraiment, c'est dans ma lignée, c'est compliqué d'être père, parce qu'on a, dans le passé, ils ont perdu des enfants. J'avais cette interprétation, ou cette exégèse possible de la ligature d'Isaac, du sacrifice d'Isaac, c'est que je me suis dit, finalement, qu'est-ce qu'il y a de... En fait, est-ce que cette épreuve, c'est pas en toile de fond cette sorte de commande qui est faite à toute maternité ou paternité, qui est de prendre le risque de la mort de l'enfant, c'est-à-dire en fait dépasser cette peur-là, qui est la peur